Bonjour, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est maintenant les oreilles loin du front.
Alors ce soir dans les oreilles loin du front, nous allons parler économie puisque nous recevons Cédric Durand. Alors Cédric Durand, on l'avait déjà reçu l'an dernier. C'est un économiste qui est maître de conférence à Paris 13 et qui fait aussi partie du collectif des économistes atterrés. Et alors on va le recevoir pour le deuxième épisode de l'économie pour les nuls, les enjeux économiques et politiques de la crise. Alors si les notions de dette publique, de réforme structurelle, de politique d'austérité, de règles d'or ou de pacte budgétaire sont pour vous du charabia, restez à l'écoute. Vous saurez tout après la pause musicale. Mais heureusement, il ne faut pas payer pour écouter la radio, quoique peut-être un jour, avec toutes les réformes possibles et à venir, avec la radio numérique terrestre et ce genre de choses, un jour on devra peut-être payer pour écouter la radio. Mais là, c'est gratuit, en plus vous êtes sur radio, sur Fréquence Paris Pluriel, et vous écoutez les oreilles loin du front. Mais par contre, nous allons bien parler d'économie avec Cédric Durand. Alors Cédric Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Alors t'es économiste et on t'avait reçu il y a un an pour parler des enjeux de la crise. Et bah depuis un an, il s'est passé plein de choses, mais avant de revenir sur en particulier le pacte budgétaire, toutes les réformes structurelles, toutes les politiques d'austérité qui ont été mises en place, est-ce que tu pourrais nous revenir un peu sur les origines de cette crise ? Parce qu'on parle de crise de dette publique aujourd'hui, mais ça a une histoire, cette crise. D'où elle vient ?
Donc en fait, le moment d'éclatement de la crise, c'est d'abord une crise américaine, une crise des ménages pauvres américains, les subprimes qui n'arrivent plus à rembourser. Et la finance libéralisée est devenue tellement complexe que personne ne sait où sont les trous. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de dettes qui finalement risquent de ne pas être remboursées. Et donc il y a une défiance majeure sur les marchés financiers qui précipite l'ensemble de l'économie mondiale vraiment au bord de l'effondrement. Ça, c'est l'époque de 2007 et surtout automne 2008. 2009, début 2009, les gouvernements, enfin fin 2008, début 2009, les gouvernements se rendent compte que c'est vraiment la catastrophe et donc décident d'intervenir massivement, comme on n'a jamais vu, avec des actions de banque centrale tout à fait considérables. Ils approvisionnent les banques de manière illimitée en argent, ils laissent filer les déficits publics. Et à partir de l'automne 2009, on voit émerger une spécificité européenne dans cette crise.
Oui, parce que c'est étrange, ça vient quand même des États-Unis au départ, cette crise.
Oui, la crise vient des États-Unis, mais elle va s'intensifier en Europe parce que, en raison des spécificités de l'Union économique et monétaire. Alors, quelles sont ces spécificités ? Mais on a une seule monnaie, l'euro, pour des économies avec des niveaux de développement très différents. Et finalement, pendant un temps, ça a plutôt bien marché. Depuis le lancement de l'euro jusqu'à 2007, le pari a été tenu. Les économies ont semblé même, dans une certaine mesure, converger, avec des salaires qui ont eu tendance à se rapprocher les uns des autres. Mais en fait, la puissance de ces économies, on appelle ça la compétitivité, mais c'est la puissance relative des économies, a eu tendance à s'écarter. Et quelle a été la conséquence de ces écarts de compétitivité ? Ça a été des niveaux d'endettement plus élevés à la périphérie par rapport aux pays du centre. Pour faire bref, les économies les plus performantes, comme celles de l'Allemagne ou d'Europe du Nord, ont réussi à dégager, à exporter beaucoup plus qu'elles n'importaient, et dégager des flux financiers très importants. Dans l'autre sens, les pays de la périphérie importaient davantage qu'ils n'exportaient. Et comme on fait lorsqu'on importe davantage qu'on exporte, on s'endette. Et alors la question de savoir qui s'endette, si ce sont les ménages, les banques, les entreprises ou l'État, à ce niveau de généralité, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une périphérie qui s'est endettée grâce au mécanisme de l'euro.
Alors dans cette périphérie, il y a des pays qui sont quand même assez variés. Par exemple, il y avait l'Irlande qu'on présentait comme... le pays parfait, c'était quoi ? C'était le tigre celtique à une époque, quelque chose qui était quand même d'un dynamisme. Alors, il y a aussi des pays comme la Grèce où le dynamisme était peut-être différent. Mais comment l'Irlande est tombée, elle aussi, en fait ?
Oui, ça, c'est très important, puisque même la Grèce, avant la crise, n'était pas à des niveaux d'endettement considérés absolument insoutenables. C'était des niveaux plus élevés, mais moins que du même niveau, du même ordre d'idée que l'Italie, par exemple. L'Espagne, l'Irlande, dans une moindre mesure le Portugal, étaient des pays tout à fait rigoureux du point de vue de leurs finances publiques. Ils avaient des niveaux de dette et de déficit relativement faibles.
Ça veut dire quoi, rigoureux, à ce moment-là ?
Rigoureux, ça veut dire qu'on n'a pas trop de déficit, donc un déficit qui est en dessous de 3% du PIB, voire un équilibre, et qu'une dette publique qui est aussi relativement faible, donc les critères, c'est moins de 70% du PIB, mais dans le cas de l'Espagne on était, et de l'Irlande, on était bien en deçà. L'Irlande, de mémoire, on devait être vers les 25 et 40% pour l'Espagne. Donc on a des pays qui, du point de vue de leurs finances publiques, sont vertueux. Mais par contre, leur système financier privé, alors de manière différente, en Espagne, c'est une bulle immobilière, donc le crédit était... à très bon marché. Du coup, les banques ont énormément accordé de prêts immobiliers. On a une flambée des prix d'immobilier. Et de cette façon-là, on a des mauvaises dettes qui sont réparties dans toute la société. Dans le cas de l'Irlande, c'est différent. C'est des banques qui étaient très internationalisées et qu'il y a eu une bulle immobilière locale, mais il y a eu aussi, tout simplement, une exposition à la finance internationale. Et donc, voilà, quelque chose de bien plus internationalisé. Mais alors, dans les deux cas, dans le cas de l'Espagne, dans le cas de l'Irlande, et dans une certaine mesure dans le cas de la Grèce, ce qui va précipiter la crise des finances publiques, c'est la crise des subprimes précédentes. Pourquoi ? Parce que la crise des subprimes se traduit par un gel, je l'ai dit tout à l'heure, d'activité financière, et ensuite une récession, la première récession depuis la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier.
Ça veut dire quoi, une récession ?
Une récession, ça veut dire qu'au moins sur deux trimestres de suite, le PIB diminue. Donc on produit en valeur moins qu'à la période précédente. Donc pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on a sur la planète entière une récession. Et une récession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc plus de chômage, donc plus de dépenses pour les États, mais ça veut dire aussi moins de recettes, puisqu'il y a moins d'argent qui circule, donc il y a moins d'impôts. Et ça veut dire également autre chose, puisque c'est dans un contexte de crise financière, ça veut dire que les banques vont se retrouver fragilisées, il va y avoir des mauvaises banques. Et le cas de l'Irlande, de ce point de vue-là, est paradigmatique. Pourquoi l'Irlande a dû faire appel à l'Europe pour être aidée, entre guillemets ? Elle a dû faire appel parce qu'elle a assumé publiquement, hein, le budget public a assumé les dettes, les mauvaises dettes du système privé. C'est vraiment la finance privée qui a été sauvée directement par le contribuable irlandais.
Et alors là, c'est peut-être idiot, mais est-ce que les banques ont été nationalisées ou est-ce qu'on a juste prêté sans contrepartie ?
La plupart du temps, on a prêté sans contrepartie. C'est pas toujours le cas. Il y a eu quelques nationalisations en Angleterre, Northern Rock par exemple. Mais la plupart du temps, on a eu des systèmes de bad bank où on prenait en charge les mauvais actifs dans une banque subventionnée par l'État et on laissait à flot les autres banques.
Donc les États ont donné énormément d'argent pour aider ces banques. Et après, donc, elles se retrouvent endettées. Donc elles ont besoin d'argent et elles vont réemprunter à d'autres banques.
Donc là, on arrive à la situation de 2009-2010 où l'Union européenne est obligée d'intervenir pour renflouer les États, soit parce qu'eux-mêmes sont en difficulté, comme la Grèce, à cause de leurs recettes fiscales qui ont diminué et de leurs déficits précédents, de leurs dettes précédentes, soit, ce fut le cas en Irlande, parce que les gouvernements sont venus sauver les systèmes financiers. Ils interviennent. Comment ils interviennent ? Eh bien, c'est le moment où se mettent en place ces dispositifs de sauvetage encadrés par la Troïka.
Et la Troïka ? Alors,
la Troïka, c'est le FMI, la Banque Centrale Européenne, ainsi que la Commission Européenne. Et donc, l'échange qui a lieu est le suivant. Des fonds sont débloqués par les pays européens, pour l'essentiel, hein, d'abord en bilatéral, ensuite dans une structure commune, ainsi que par le FMI, et sont accordés aux pays en difficulté. En échange de ces prêts, il y a un programme de réforme il y a un accord sur un programme de réforme, il y a des vérifications qui sont faites sur ce programme de réforme par cette Troïka.
Donc c'est accordé par la Troïka aux États pour que les États aident les banques.
Pour qu'ils aident les banques dans le cas de l'Irlande, dans le cas de la Grèce et du Portugal, en partie pour soutenir les banques, en partie parce qu'ils n'arrivent plus à se financer sur les marchés. Donc c'est peut-être un point essentiel. En général, en règle générale, les États empruntent. La France continue à emprunter. Mais les marchés financiers... Pourquoi il y a eu cette crise ? Parce que les marchés financiers se sont rendus compte, à l'automne 2009, que finalement, les niveaux de dette étaient élevés par rapport à la croissance qu'on pouvait espérer de ces États. Et ils ont commencé à se dire, on leur a prêté comme si c'était l'Allemagne, mais en fait, c'est pas si sûr. Et ils ont commencé à considérer qu'il y avait un risque. Et considérer qu'il y a un risque, ça a un prix. Et donc, il y a par ailleurs de la spéculation qui s'est rajoutée. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont parié sur le fait qu'il y aurait un risque et donc qui ont contribué à faire enfler ce risque. Et on arrivait à des niveaux de dette qui étaient extrêmement élevés, hein, 5, 6, 7, jusqu'à plus de 20% pour la Grèce. Hein. Donc, des taux d'intérêt qui sont absolument intenables. Un gouvernement qui plus est en difficulté, s'il a des taux d'intérêt extrêmement élevés, il a encore plus de mal à rembourser. Donc il y a une espèce de cercle vicieux où on a de la récession qui baisse les recettes fiscales, des recettes fiscales qui sont des États qui sont par ailleurs en difficulté parce qu'ils ont des coûts financiers de plus en plus importants, l'effet des mesures d'austérité qui prennent pour faire face à ces coûts financiers, à cette récession, c'est de moins dépenser ou de lever plus d'impôts, ce qui contribue à son tour à contracter l'activité. Et vu que l'activité se contracte, on sait qu'ils vont avoir moins de rentrées fiscales, donc on leur prête de plus en plus cher, on refuse de leur prêter.
Et du coup, là, on est en 2009, dans ce que tu décris, à peu près.
2009 pour la Grèce, ensuite il y a l'Irlande, le Portugal, Chypre.
Et du coup, à cette époque, quel est le rôle de la Banque Centrale Européenne ? Parce que maintenant, on parle beaucoup de la Banque Centrale Européenne, elle a un grand rôle, mais à l'époque, comment ça s'articule en fait avec la Troïka ?
Alors, elle a déjà joué un rôle dès 2010, la Banque Centrale Européenne, en rachetant au second marché des titres de la dette publique. Alors, ça
au
veut dire
second
quoi ?
Marché, oui. Ouais.
Le second marché, en fait, les États, quand ils s'endettent, ils émettent des titres et ils les vendent sur les marchés. Ils disent « qui veut de ma dette ?» Et donc, les banques, les fonds d'investissement achètent de cette dette-là.
Et quel est l'intérêt d'acheter une dette publique, en fait ?
Il y a deux intérêts. Le premier, c'est qu'il y a un petit intérêt au sens de taux d'intérêt, donc un petit revenu qui est généré, mais qui en fait est assez faible. L'autre intérêt qui est le plus important, c'est le fait que c'est considéré comme ce qu'il y a de plus solide comme actif. C'est ce qui vaut le plus cher, ce qui est le plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la souveraineté derrière, il y a du politique. C'est quoi la valeur de la dette publique ? C'est on prête sur la capacité d'une autorité politique à prélever de l'impôt. C'est ça le sens. Donc c'est un actif qui est considéré comme extrêmement sûr, a priori plus sûr que les actifs des entreprises. Les marchés financiers considèrent que le politique est plus important que le business. C'est ça quand même le prix. Ce qui explique les taux relativement faibles de la dette publique. Une petite parenthèse, Lorsque, à l'automne 2011, les États-Unis ont vu leurs notes dégradée, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les taux d'intérêt n'ont pas augmenté. On aurait dû considérer qu'ils étaient moins fiables. Mais au contraire, ils ont diminué. Pourquoi ? Parce que la lecture des marchés financiers était la suivante. Si la note des États-Unis est dégradée...
Juste les taux d'intérêt de quoi ?
De la dette.
On est toujours sur la dette,
toujours. Parce que si on considère que les taux d'intérêt américains deviennent plus risqués, ça veut dire que le système dans son ensemble devient extrêmement perturbé. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il y a de plus sûr au monde que la puissance régalienne de l'État américain ? Rien. Donc on achète de la dette publique américaine, donc les taux d'intérêt s'effondrent.
Oui, c'est assez. Les marchés ont des logiques parfois assez étonnantes.
Assez étonnante, mais d'une grande rigueur. Il y a une certaine vérité de l'argent qui se révèle dans cette crise. C'est-à-dire que les marchés financiers, évidemment, ils défendent des intérêts extrêmement puissants, mais en même temps, ils révèlent les choix politiques qui sont faits de leur laisser autant de liberté, et de manière tout à fait limpide.
Alors, on était sur la BCE et la Troïka. Donc, la BCE était intervenue déjà en 2010, tu disais ?
Alors, elle est intervenue pour acheter donc sur le second marché des dettes publiques, c'est-à-dire qu'elle n'achète pas directement aux États de la dette, mais elle la rachète aux banques. Le fait qu'elle la rachète aux banques, ça contribue à faire baisser les taux d'intérêt. Ça fait de la demande sur cette dette, donc ça contribue à faire baisser les taux d'intérêt. Et donc, ils ont lancé un programme à plusieurs reprises sur la Grèce, sur l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Mais ils le faisaient avec des conditions. Et en particulier, Berlusconi... Avant d'être renvoyé, il avait conclu un accord. Donc on est à l'été 2011, comme quoi il s'engageait à faire une série de réformes, en particulier une réforme sur le patrimoine, enfin d'imposition sur le patrimoine. Et donc la BCE, en échange de cet accord, avait acheté de la dette italienne. Ça fait baisser le prix de la dette italienne. Mais Berlusconi, très rapidement, il s'est dit que c'était pas une bonne idée de faire payer les riches. Donc il est revenu sur cet accord. Et du coup, la BCE avait fait baisser le taux d'intérêt et Berlusconi n'avait pas implanté ses réformes. Et du coup, un peu plus tard, à la première tension nouvelle, ils l'ont forcé à aller dehors. Ils ont fait une liste qui était extrêmement humiliante de 8 pages de réformes qu'il devait prendre. Et puis bon, ils ont organisé son éviction. Donc Berlusconi, ça fait plaisir de le voir dehors. Puis en plus, c'était pour...
Faire payer les riches, voilà, on n'est pas totalement contre non plus.
Mais le mécanisme qui se met en place, c'est un mécanisme purement autocratique. C'est une administration qui s'érige en juge politique. On le voit avec Berlusconi, mais on le voit aussi avec ce qui s'est passé en Grèce avec Papademos. Et d'une façon plus générale, et je pense que c'est une des lignes de force sur laquelle il faudra revenir, il y a un autoritarisme européen qui a émergé dans cette séquence-là.
Alors là, depuis tout à l'heure, tu nous parles des dettes, mais est-ce qu'on sait à qui appartiennent ces dettes ? Ça appartient aux banques ? Ça appartient à des particuliers, à des fonds de pension ? Ça appartient à d'autres États ?
Un peu de tout ça. Ça appartient aux banques et aux banques centrales, par exemple. C'est un moyen d'avoir des réserves. Bon, ça appartient à des fonds de pension qui, effectivement, doivent avoir dans leur portefeuille un certain nombre de titres extrêmement considérés comme très sûrs. Ça appartient d'autant plus, si c'est à la périphérie, à des fonds hedge funds, donc des fonds spéculatifs, qui, là, bénéficient des rendements extrêmement élevés, mais qui sont prêts à assumer le risque éventuellement d'une faillite. Donc voilà, c'est des acteurs assez divers. Et puis ça appartient aussi de plus en plus à la BCE, puisque aujourd'hui, la BCE détient une grande part des créances grecques. Donc voilà, il y a aussi une partie publique finalement détenue de cette dette-là.
Et alors, face à cette crise de la dette, on a vu que certaines personnes, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Berlusconi, qui avait fait des promesses à la BCE pour qu'on lui rembourse de l'argent, quoi, qu'on lui fasse des prêts. Mais comment les autres États ont réagi ? Est-ce qu'il y a eu une réaction globale au niveau européen où chacun a fait un peu sa petite sauce en disant on va draguer un peu la BCE pour qu'elle nous prête des sous-sous ou...
Non, il y a un bloc qui dirige l'Europe, qui est autour de l'Allemagne, qui est le seul pays avec les Pays-Bas et la Finlande, le Luxembourg, qui ont le titre de AAA, donc c'est ce qui est le plus crédible pour les marchés financiers. Et donc, ils considèrent vraiment, c'est eux vraiment le cœur financier de l'Europe, et c'est eux vers qui bascule la décision, ou a basculé jusqu'à présent la décision. C'était vraiment le... Donc, avec un accord avec la BCE en règle générale. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des tensions. Et en particulier, il faudra peut-être qu'on discute de la période plus contemporaine, à mon avis, où on est un peu dans un moment de basculement, où ce bloc qui a été extrêmement fort dans la période précédente arrive un peu au bout de sa logique. Et sa logique, c'est celle d'une récession qui retombe. Parce que le mécanisme que j'ai raconté tout à l'heure, vous vous souvenez, taux d'intérêt qui augmente, récession, plus d'austérité, récession, moins de recettes fiscales, etc., plus de déficit, plus de dette, on est en plein dedans. On l'avait prévu depuis longtemps, les économistes atterrés et bien d'autres. On a expliqué dès 2010 que la généralisation de l'austérité se traduirait par un retour de la récession. Ben, c'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui en Europe. On est dans un scénario de double dip, c'est-à-dire où on a eu une première crise en 2009, et une très légère reprise en 2010-2011, et là, hop, on est de nouveau retombé dans la récession.
Allez, avant de suivre la récession de la récession, un peu de zik.
Come on.
vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous parlons économie ce soir avec Cédric Durand, donc, qui est économiste et membre des économistes atterrés et prof, maître de conférence, on dit, parce que c'est mieux, à Paris 13. Alors tout à l'heure, on parlait de la dette, mais alors tu nous disais un peu hors antenne quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en fait, grosso modo, les États, on leur prête de l'argent et après... Ces prêts sont payés encore plus cher par les banques. Je ne suis pas très claire. Mais...
En fait, le système est le suivant. Les États ne peuvent pas directement emprunter de l'argent à la Banque Centrale Européenne. Ils en empruntent donc aux banques, oui, à d'autres acteurs financiers. Mais les banques, elles peuvent directement emprunter de l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne. Et elles peuvent l'emprunter à des taux extrêmement faibles. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 1%. Donc, c'est des taux qui sont extrêmement faibles. À ce niveau d'emprunt, ça signifie que, à ce niveau de taux d'intérêt, ça signifie que les banques ont l'occasion de se faire un surplus sans prenant aucun risque. Quoi. Elles empruntent à la Banque Centrale Européenne, elles reprêtent le même argent à des pays, et entre les deux, la marge de taux d'intérêt entre les deux est pour leur poche. Alors si elles prêtent à l'Allemagne, ça ne leur rapporte pas grand-chose. Si elles prêtent au Danemark, même elles perdent de l'argent. Le Danemark a expérimenté pour la première fois dans l'histoire du système bancaire des taux d'intérêt négatifs. La Banque Centrale Danoise a fait des taux d'intérêt négatifs parce que c'est tellement considéré comme un investissement sûr de détenir... De mettre à la Banque Centrale Danoise ses réserves, qu'il fallait désinciter les banques de déposer leur argent. Mais la situation, lorsqu'on prête à l'Espagne, ou à l'Irlande, au Portugal, même à la France, c'est une marge tout à fait significative pour les banques, sans aucun risque.
Mais c'est un peu aberrant d'avoir un intermédiaire supplémentaire pour avoir de cet argent. C'est quand même étrange comme système.
Ce système est étrange, mais il a sa logique. Et sa logique, c'est la discipline de marché. C'est que l'hypothèse qui est faite par ceux qui ont conçu la Banque Centrale Européenne, c'est que s'il y a un lien direct entre la Banque Centrale et les États, il va y avoir une spirale inflationniste parce qu'il y aura une pression politique pour que la Banque Centrale prête aux États. Du coup, vu qu'ils ne veulent pas de ça, ils imposent ce qu'ils appellent une discipline de marché. Donc la Banque Centrale, elle, ne peut pas prêter aux États. Seules les banques, le système financier privé peut le faire.
Et alors là, on parle de la BCE, mais c'est une petite question peut-être naïve, mais aux États-Unis, la Banque centrale peut prêter
Alors, la Banque centrale aux États-Unis, effectivement, peut racheter de la dette, hein, et rachète de la dette publique de manière très importante, et c'est un des éléments qui a permis de stabiliser relativement la crise aux États-Unis, ce qui n'a pas été possible en Europe.
Tu veux dire racheter directement, en fait, mm-hmm. et pas racheter sur le marché secondaire, exactement. Comme ce dont tu parlais tout à l'heure exactement. Pour la BCE, oui.
Alors, face à cette crise, justement, la BCE, la Troïka, a imposé... Des réformes et à imposer une contrepartie à ces prêts. Quelles étaient-elles au niveau structurel ?
Alors, la logique, il faut essayer de comprendre pourquoi on est tombé dans l'austérité. On est tombé dans l'austérité parce que les dirigeants européens sont bien conscients des différentiels de compétitivité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais leur cadre d'interprétation est qu'il faut imposer aux pays de la périphérie de gagner en compétitivité, tout en restant dans l'euro. Mais il n'y a pas 500 solutions pour faire ça. Comment on fait ? Il faut que l'État dépense moins pour prélever moins d'impôts et il faut que les salaires diminuent. Donc l'ensemble des politiques ont été orientées vers la baisse des dépenses publiques, d'une part, pour diminuer la masse des impôts prélevés, et d'autre part, vers la libéralisation du marché du travail, la baisse du coût du travail pour renforcer la compétitivité. Donc ce qu'on impose à ces peuples, c'est vraiment une diminution réelle de leur niveau de vie. Alors en Grèce, c'est spectaculaire, on est à un tiers à peu près de baisse du niveau de vie. Si on prend le cas de l'Italie, de l'Espagne, on a déjà perdu 10% aussi depuis le début de la crise, donc c'est des reculs, c'est le revenu médian, hein, je parle pour l'Espagne et l'Italie, c'est des reculs qui sont tout à fait significatifs. Et la grille d'interprétation est la suivante, hein. On ne touche pas à l'euro, on ne fait pas de transfert, il faut que les pays fassent l'effort pour redevenir compétitif. Et ce qu'on fait, lorsqu'on leur prête de l'argent entre-temps, c'est pas du tout pour les idées. On pourrait dire, pour être compétitif, il faut davantage investir dans des infrastructures, il faut former mieux la population, il faut subventionner des machines, bref.
Parce qu'il y a de la bonne dette, comme il y a du bon cholestérol, non ?
Voilà, on pourrait imaginer ça, effectivement, dans une logique de ce type-là, keynésienne, on peut penser qu'il y a de la bonne dette, mais c'est pas du tout ça qui est pensé. Les flux financiers qui vont à la périphérie, ils ont un seul objectif, c'est de continuer, de permettre aux pays de continuer à rembourser leurs dettes. Hein, c'est pour éviter qu'il y ait des impayés massifs dans le système financier privé. Alors, dans le cas de la Grèce, il y en a eu. Hein, il y a eu quand même une partie de la dette grecque qui a été annulée. Mais tout ça a été fait de manière relativement limitée, contenue, préparée, négociée de manière extrêmement âpre par le lobby financier. Hein. À l'époque, on avait envisagé de faire payer cette annulation de... À la place de faire payer cette annulation de la dette, on avait envisagé, l'Allemagne avait envisagé de proposer un impôt sur les banques européennes. Et le lobby financier a mille fois préféré avoir une limitation... Une annulation limitée de la dette plutôt que de voir instaurer un nouvel impôt qui aurait été un précédent.
Oui, parce que face à cette crise, on aurait pu aussi penser une certaine solidarité européenne, je ne sais pas, faire une mutualisation des dettes au niveau des États, ou faire comme l'Islande, dire on ne paye pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres alternatives qui ont émergé au niveau des États?
Alors, juste pour finir sur le point précédent, il y a un lien au point précédent, la logique de déflation réelle, c'est ça, hein, le terme technique de baisse des salaires, de compression de l'austérité, c'est la déflation réelle, elle bute sur des limites politiques. Hein. La Grèce est en état de quasi-insurrection depuis un an, l'automne dernier c'était vraiment hallucinant, vous avez vu cette semaine, l'Europe est en feu, bon, on a dimanche une manifestation à Paris, mais ce qui s'est passé hier en Espagne était encore une fois extrêmement important, on a eu au Portugal il y a deux semaines la plus importante manifestation depuis le début de la crise, donc vraiment on touche des limites politiques extrêmement fortes, hein, avec des manifestations très fortes, l'extrême droite néo-nazie qui émerge de manière tout à fait puissante et terrifiante en Grèce. Donc il y a vraiment des syndromes de désagrégation politique, de limites politiques de ces politiques-là. Mais de l'autre côté, du côté des bonnes solutions, des solutions plus gentilles, keynésiennes, il y a aussi des limites politiques.
Ah d'accord.
Les limites politiques, elles sont différentes, mais c'est qu'il n'y a pas de démocratie européenne qui permette de légitimer des transferts financiers importants. On peut le souhaiter. On peut souhaiter d'avoir une zone euro qui soit suffisamment intégrée pour assumer ces transferts-là. Mais il faut qu'il y ait, à un moment donné, un corps élu pour faire ça. Il faut qu'il y ait des représentants légitimes pour le faire. Il n'y en a pas. Les pouvoirs du Parlement européen sont extrêmement limités. Et ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Europe sont soit des structures intergouvernementales, comme le Conseil européen, soit des bureaucrates extrêmement éloignés des peuples, ou complètement, dans le cas de la BCE.
Donc là, on revient effectivement à ce que tu disais tout à l'heure, enfin, une des raisons pour lesquelles la BCE aussi ne prête pas directement aux États, parce que c'est censé être un organe indépendant, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit vraiment que la BCE est amenée à jouer un rôle quasiment politique, en fait. Enfin,
cette remarque est extrêmement importante, puisque la BCE est l'organe politique qui émerge de cette crise comme l'organe le plus puissant. Elle est capable de faire tomber des gouvernements, elle envoie des listes de réformes extrêmement précises aux gouvernements qu'elle leur demande de suivre. Et il y a deux semaines, hein, dans le Financial Times, il y avait un petit post de Binis Maggi, qui est un ancien membre de la BCE italien, qui a été contraint de démissionner au mois de juin, puisqu'il y avait Draghi qui rentrait. Bon, je vous passe les détails. Mais du coup, c'est un insider, quoi. Et il raconte un peu ce qui se passe. Il était extrêmement fâché contre le représentant allemand qui avait protesté contre la dernière décision de Draghi. Et pourquoi il était extrêmement fâché ? Donc là, c'est une citation. Hein. C'est parce que Draghi a pu laisser croire que les décisions qui se prenaient... Weidmanns, en protestant contre ces décisions, croire que les décisions qui se prenaient dans la BCE étaient des décisions politiques. A pu laisser croire que les décisions qui se prenaient au sein de la BCE étaient des décisions politiques. C'est-à-dire que le pouvoir de la BCE est basé sur une fiction, la fiction que ce sont des décisions purement techniques.
Des décisions d'experts.
Voilà. Mais ce sont en fait des décisions politiques, et c'est ce qui craque aussi avec la crise.
Et alors là, avec la crise, il y a une autre chose dont on entend parler, et ça serait peut-être la solution que l'Europe propose pour avoir un pouvoir global, c'est le pacte budgétaire européen. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où vient cette idée ? Et alors après, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire aussi, parce que...
Bon, le pacte budgétaire européen, c'est un peu l'aboutissement de ce qui se met en place depuis 2010, c'est-à-dire un renforcement des règles de discipline fiscale au niveau européen, c'est-à-dire de limite des déficits budgétaires dans les pays. Donc il y a les pays qui sont sous surveillance, dont on a déjà parlé, mais là l'idée c'est d'avoir des règles générales pour tout le monde, même en temps normal. Et ces règles, elles existaient déjà dans une certaine mesure avec Maastricht, mais là on a durci la possibilité de mettre des amendes aux pays qui ne les respectaient pas.
Des amendes financières ?
Des amendes financières. Hein, de l'ordre
C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont déjà pas d'argent, qui vont devoir payer en plus ?
Voilà, s'ils sont... exactement, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est le premier point. Il suffit qu'un pays saisisse la Cour de justice, hein, européenne pour pouvoir imposer une amende à un pays qui ne respecterait pas les règles qui ont été décidées. Donc les règles qui ont été décidées, c'est la fameuse règle d'or du 0,5% du déficit structurel.
Alors, et ça veut dire quoi, cette 0,5%? Parce que quand on entend Tout à l'heure, tu nous racontais la Grèce. La Grèce, c'était quoi ? C'était
La Grèce, elle péniblement, elle redescend aujourd'hui vers moins 2, moins 3% de déficit. Mais elle était à 12. La France n'arrivera pas à atteindre ses objectifs de 3% l'année prochaine. Enfin, et puis la Grèce, je parlais de déficit net, c'est-à-dire sans prendre en compte le paiement des intérêts. Si on prend en compte le paiement des intérêts, on est bien loin de ça. L'Espagne, aujourd'hui, est en train de viser un objectif de moins 5%. Enfin, tous les pays sont très loin, mais l'idée, c'est d'arriver vers cet objectif de moins 0,5. Alors, il y a un débat qui est intéressant. Hein. L'idée, c'est qu'on s'interdit d'être en déficit. C'est ce que ça veut dire, 0,5% de déficit structurel. Ça veut dire qu'en gros, il y a une petite marge supplémentaire quand la conjoncture se retourne. Et puis, en période d'excédent, on doit avoir un petit excédent budgétaire quand la conjoncture va bien. Donc, c'est vraiment se lier les mains et de ce point de vue-là, c'est critiquable. Ça limite les marges de manœuvre budgétaires des États. Il y a peut-être quelque chose qui est plus important à côté de cette règle d'or. C'est les mécanismes qui sont mis en place pour la surveiller. Et ça va un peu avec l'idée que j'évoquais tout à l'heure, l'idée d'une forme d'autoritarisme européen qui émerge. On le voit avec la BCE, qui est soi-disant une structure technique. À côté du Conseil européen et de la Commission, le traité crée un conseil d'experts qui va être chargé d'examiner la crédibilité des politiques fiscales. Donc là encore, on a une structure qui n'est pas politique, qui est constituée d'experts et qui va être chargée de surveiller les politiques des États.
Et quand on parle des experts, là, tu sais à peu près qui fera partie des experts ? Parce que c'est toujours un peu mystérieux.
Alors, on ne sait pas qui c'est les prochains, puisque la Commission n'est pas encore mise en place. Mais par contre, on peut regarder ce qui s'est passé avec, par exemple, la réforme bancaire européenne. Donc là, il y a aussi en parallèle des discussions sur une réforme bancaire européenne qui viserait à avoir un pouvoir de supervision bancaire directement au niveau supranational. Et les gens qui ont été chargés de le mettre en place, eh bien, c'était dirigé par un certain Delarosière, qui est conseiller spécial de BNP Paribas. Et dont, sur la moitié des experts, sur la douzaine d'experts, il y en a la moitié qui sont directement liés à des entreprises du secteur bancaire, Goldman Sachs, etc.
Et ça fonctionnerait un peu comme les agences de notation qui mettent les AAA et les AB+.
Ouais, sauf que c'est directement des avis politiques. C'est-à-dire que ces avis politiques seraient mis, seraient donnés à la Commission et au gouvernement réuni au sein du Conseil européen, et à eux de s'en saisir. Donc, d'une certaine façon, ce qui se joue avec les réformes fiscales de la politique budgétaire en cours, c'est de déposséder les États de toute marge de manœuvre budgétaire et de confier à la Commission d'une part et aux pairs, c'est-à-dire non seulement les États eux-mêmes, mais les autres États qui participent au Conseil européen, la surveillance de la politique budgétaire des États. Tout ça sous l'auspice d'arbitres, qui sont des arbitres techniques, soi-disant apolitiques, techniques, des experts. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être quelque chose d'encore plus important. C'est qu'ils sont très cohérents. Et la cohérence fait que si on veut vraiment voir ce que va donner la politique budgétaire, ben il faut regarder en fait toute la politique économique. Et l'article 11, c'est peut-être cet article, à mon avis, qui est le plus important dans le traité, il spécifie que tout État envisageant une politique économique significative devra au préalable la soumettre à l'examen de la Commission et du Conseil européen. Donc il n'y a plus véritablement de marge de manœuvre pour toute politique économique, dans quelque domaine que ce soit, qui ait une quelconque importance. Tout doit être auparavant examiné au niveau européen. Alors, peut-être pour simplement m'arrêter là-dessus, en soi, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est que c'est un déni de démocratie. C'est que l'échelon vers lequel c'est envoyé, c'est un échelon vers lequel les peuples n'ont aucune influence, et ceux qui ont une influence, c'est directement la finance.
Oui, c'est pas un transfert de souveraineté d'un État à une instance européenne démocratique, en fait. C'est ça le problème, quoi.
Exactement. En fait, le choix, et je pense qu'il faut vraiment, à mon sens, c'est le moment historique dans lequel on est, c'est celui-là. Ce n'est pas un moment où on doit opposer la nation à l'Europe. Ce n'est pas ça du tout la question. Ce qui est en train de s'opposer aujourd'hui, c'est des éléments de démocratie qu'on a face à une forme de césarisme, d'autoritarisme bureaucratique dirigé par la finance qui, en quelques années, en l'espace de 2 ans, a acquis une somme de pouvoir absolument considérable.
Et alors là, face à ce pacte budgétaire, est-ce que... Il y a des gens qui s'y opposent, alors que ce soit au niveau des États, parce qu'on avait entendu François Hollande qui critiquait avant son élection ce qu'il y avait dans le pacte budgétaire. Il avait dit qu'il allait renégocier ce pacte budgétaire, ou que ce soit au niveau, on va dire plutôt de la société civile, quoi.
Alors ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'en fait, ce pacte budgétaire. C'est le pari de François Hollande. Et c'est pas sûr qu'il ait complètement tort. C'est pas sûr qu'en fait, il marche, ce pacte budgétaire. Il va être ratifié, il va être décidé. Mais la situation est tellement dramatique, avec la double récession que j'ai évoquée, que déjà, ce qui est en train de se discuter, c'est de décaler les deadlines pour l'austérité. C'est-à-dire d'alléger un peu l'austérité. Là, on est dans de l'austérité hardcore. Mais on aurait de l'austérité plutôt un peu soft pour essayer d'éviter d'étouffer complètement l'économie. Donc... C'est intéressant. C'est dans ce sens-là que je pense qu'on est en train de changer de moment. Le moment, ce qui a dominé la période précédente, c'est vraiment l'austérité extrêmement violente. Ça va continuer, hein. Je ne suis pas en train de dire que l'austérité, c'est fini. Mais ce qui, à mon avis, est en train de devenir la question politique principale, c'est plus cette question de l'austérité, c'est la question du pouvoir qui, à l'occasion de ce traité, est transféré du niveau national à un niveau technocratique, financier, européen.
Et alors, quand tu parles un peu d'austérité plus douce, ça veut dire quoi au niveau...
Moi, c'est des mesures techniques, mais il y avait un article très bon dans le Wall Street Journal, qui est ma lecture du vendredi, un article très bon vendredi dernier, sur le titre, c'est « Dans la crise, l'Union européenne voudrait mettre plus de carottes et moins de bâtons ». Alors, la carotte, c'est la carotte pour le Wall Street Journal, hein, c'est pas pour nous, c'est des réformes structurelles.
Ouais.
Mais plus de carottes et moins de bâtons, c'est donc un déplacement de l'austérité brute aux réformes structurelles. Pour l'instant, les politiques ont été essentiellement centrées sur la baisse des dépenses, la hausse des impôts, mais également hein, un certain nombre de réformes structurelles, c'est-à-dire de libéralisation du marché du travail, de privatisation, de déréglementation d'un certain nombre de professions. Alors, dans le langage de la finance, l'austérité, c'est vu comme un moyen de tout de suite de permettre aux États d'avoir moins de dépenses ou davantage de recettes, donc de régler le problème de la dette. Les mesures structurelles, c'est vu comme ce qui permet de jouer en dynamique, dans le temps. Et vu qu'ils ne peuvent plus continuer à serrer la ceinture autant, le continent est en train de replonger dans la récession, je le disais tout à l'heure, ils essayent de trouver un moyen de redynamiser la croissance, mais sans faire des dépenses. Donc ce moyen de redynamiser la croissance sans faire des dépenses, c'est les réformes structurelles. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec le déplacement de pouvoir que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut avoir un déplacement d'agenda de l'austérité qui va continuer mais qui sera moins forte. Mais par contre, les pouvoirs qui sont mis en place vont de plus en plus exiger des réformes structurelles, de libéralisation du marché du travail, de baisse des salaires, hein, tout ce qui concerne finalement l'économie privée.
Mais ça, c'est quand même... Enfin, ça, quand même, on... Par exemple, les manifestations, enfin la manifestation qu'il y avait en Grèce aujourd'hui, c'était aussi contre les réformes structurelles.
Oui, tout à fait,
enfin,
C'est-à-dire, les deux étaient présents, mais il va peut-être y avoir un peu de relâche du côté de l'austérité et un peu d'intensification du côté des réformes structurelles. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais bien sûr que les réformes structurelles étaient déjà en place.
Sense of what I know is real and what it's not.
We gotta be as hungry as they are.
As hungry as they are. lines than tough. Justice rough. A million on the streets don't seem to be enough. Way down inside, taken for a ride, yeah. Living rent free within your mind. Don't let them live rent free within your mind.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et alors ce soir, avec les oreilles loin du front, nous parlons d'économie, d'économie de la crise et de la crise des économies avec Cédric Durand, économiste et maître de conférence à Paris 13. Alors
justement, Cédric, on se demandait, parce que lundi, Christine Lagarde, donc, qui dirige maintenant le FMI, a fait cette déclaration où elle expliquait qu'en fait, il allait falloir effacer encore sans doute une partie de la dette grecque. Et est-ce que ça, en fait, ça se rattache à ce que tu disais tout à l'heure, que l'austérité devient, enfin, il y a une espèce d'assouplissement en fait du discours sur l'austérité.
Alors, en partie dans le sens où effectivement, ils vont être obligés de lâcher du lest s'ils ne veulent pas mettre la Grèce en dehors de la zone euro. Mais surtout, ce que montre le cas grec, c'est l'aberration des politiques qui ont été mises en place. C'est non seulement des politiques qui sont absolument horribles du point de vue des populations, hein, on atteint des taux de chômage de 50% parmi les jeunes en Espagne, au Portugal, on a des niveaux de pauvreté qui explosent, on a une dégradation de la situation sanitaire tout à fait spectaculaire. Mais c'est aussi des politiques qui ne marchent pas, y compris de leur propre point de vue. Hein. En Grèce, on s'achemine vers un troisième plan de sauvetage. On a eu le premier en mai 2010. Finalement, les objectifs de recettes fiscales, de réduction de la dette n'ont pas été atteints, puisque l'économie s'est contractée de manière très importante. On a eu donc un nouveau plan l'été dernier, en juillet-août 2011. Et là, à ce moment-là, on a décidé d'annuler une partie de la dette parce que de toute façon, ce n'était pas possible de payer. Et là, on arrive en 2012 avec une année 2012 qui est absolument catastrophique pour la Grèce. Hein, on est à moins 7% du PIB. Donc aujourd'hui, la Grèce ne produit que les 4/5 de ce qu'elle produisait à la veille de la crise. Hein. C'est vraiment un recul extrêmement fort. Et du coup, on sait que la Grèce ne pourra de nouveau pas payer. Les discussions qui ont lieu aujourd'hui même, ces jours-ci, c'est de savoir qui va payer. Donc la Banque Centrale Européenne vient de dire que non, c'était hors de question qu'elle accepte de se faire rembourser plus tard par la Grèce. On a le FMI qui dit qu'il refuse de s'engager davantage, et en particulier avec le raisonnement qui n'est pas idiot que si les Européens eux-mêmes ne croient pas au sauvetage de ces pays-là, il n'y a aucune chance que eux y croient, ils ne voient pas pourquoi ils devraient y croire. On a ensuite la possibilité que la Grèce fasse davantage de privatisations, mais elle est déjà très à la bourre sur les privatisations, et évidemment personne ne veut acheter des actifs grecs alors que l'économie est en train de s'effondrer. Alors d'un côté c'est pas cher, donc ça rapporte pas beaucoup d'argent, donc ça résout pas beaucoup de problèmes, et puis d'un autre côté il n'y a pas vraiment de demande parce que tout le monde est très inquiet sur... Les investisseurs financiers qui sont susceptibles de bénéficier de ces privatisations se méfient de la situation politique. On a sinon une troisième solution qui serait un troisième sauvetage, c'est-à-dire que les pays européens débloquent de l'argent pour la Grèce. Alors je répète, je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit pour la Grèce, c'est pas pour les Grecs.
Hein. Oui, c'est pour les gens qui ont...
pour les gens qui ont prêté aux Grecs, c'est pour les marchés financiers. Hein, donc il faut bien faire attention à ce vocabulaire, mais ça passe bien à un moment donné par les caisses de l'État grec. Et donc là, ça serait l'Allemagne et les autres pays membres de la zone euro qui devraient mettre la main à la poche. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Donc il reste des incertitudes très, très importantes sur ce qui va devenir de la Grèce. La sortie de l'euro de la Grèce reste une question qui est loin d'être réglé.
Alors, juste avant qu'on revienne là-dessus, moi, je voulais juste revenir sur ce que tu dis. Quand tu parles de plan de sauvetage de la Grèce, en fait, c'est les États, les différents États de l'Union européenne, enfin de la zone euro même, qui prêtent de l'argent à la Grèce pour qu'elle rembourse les banques.
Exactement.
En échange, de cet argent prêté qui est censé être une faveur, la Grèce doit mettre en place des réformes structurelles.
Mais oui, puisque le raisonnement est le suivant, ouais. C'est on vous prête de l'argent, mais on commence à douter du fait que vous allez être remboursé. Donc nous, contrairement aux banques, aux investisseurs, on peut regarder ce que vous faites. On a le pouvoir de vous obliger à faire adopter les politiques que l'on veut. Et donc, il y a les hommes en noir de la Troïka. Hein, ça, c'est le terme employé par Rajoy en Espagne. Mais l'expression imagée, les mecs qui débarquent dans les ministères et puis ils exigent de voir les données. Et ils disent, bon voilà, il se passe ça. Ils obligent à prendre des décisions.
Et alors, tu disais, la sortie de la Grèce de l'euro, en fait, reste d'actualité, reste à l'ordre du jour. Pourquoi exactement? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce que c'est censé résoudre quoi, du coup, le fait que la Grèce sorte de la zone euro?
La question qui se pose, c'est est-ce que la Grèce va continuer à payer sa dette ou pas? Si elle arrête de payer sa dette, donc ça, c'est une chose, mais elle va se faire sanctionner très fortement par les autres pays européens, et en particulier par la Banque Centrale Européenne, qui est censée, elle, recevoir de l'argent puisqu'elle a acheté des titres grecs. Donc, le gouvernement grec peut très bien dire, ben non, nous, on refuse de payer notre dette, on peut pas, on la paye pas, et puis c'est comme ça. Sauf qu'il faut continuer à fonctionner au jour le jour. Alors maintenant, l'austérité a été tellement dure en Grèce qu'ils ont à peu près de quoi payer ce qu'il leur reste de fonctionnaires. Ils n'ont plus de déficit, courant. Hein. Le déficit, il est lié au taux d'intérêt, aux intérêts qu'ils doivent verser. Par contre, les banques grecques, elles sont au bord de l'asphyxie. Et elles ne survivent que grâce à l'argent que leur prête au jour le jour la BCE. Et là, la BCE, si le gouvernement dit qu'il arrête de payer la dette, la BCE arrêtera du jour au lendemain de financer les banques grecques. Et là, ça signifie que le système financier grec s'effondre, que le gouvernement va bien devoir faire quelque chose, il n'a pas l'argent pour le faire, et là, il n'aura pas les marges de manœuvre pour le faire dans l'euro. Donc ça, c'est un moyen de forcer la Grèce à sortir de l'euro. Hein. C'est un moyen de forcer la Grèce à sortir de l'euro.
Et pour les Grecs, ça voudra dire quoi, sortir de l'euro? Est-ce qu'il y aura un redynamisme économique
Alors, le débat, il est très compliqué, et sur le plan économique, et sur le plan politique. Sur le plan économique, on sait un peu ce qui se passera. La Grèce sort de l'euro, ça va être la panique. Si c'est bien fait, s'ils arrivent à éviter qu'il y ait trop de capitaux qui sortent, donc ils vont instaurer des barrières extrêmement fortes pour empêcher l'argent de partir... Donc on peut un peu limiter les dégâts de ce côté-là, mais le pouvoir d'achat de la drachme va s'effondrer. Donc ça veut dire que les Grecs, ben, ils vont acheter leur... je sais pas s'ils boivent du Perrier, mais s'ils
importent du Perrier... Non, mais peut-être de l'ouzo ou quelque chose.
Ouais, non, alors l'ouzo, il ne changera pas de prix parce qu'il est produit en Grèce. Mais par contre, le pétrole, lui, il va augmenter, il va devenir beaucoup plus cher. Et tous les biens qu'ils importent. Donc ça va être un choc sur le niveau de vie des Grecs. Hein, les Grecs vont s'appauvrir à court terme de manière significative. Mais très rapidement... Ils vont moins importer puisque c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et inversement, ils vont plus exporter puisque à l'export sera beaucoup moins cher. Et donc l'économie a une chance de repartir. Et là, le débat politique, il est compliqué parce que est-ce que du point de vue de la gauche grecque, c'est progressiste ou pas de défendre ça? Moi, c'est mon avis, mais c'est un débat qui est extrêmement compliqué.
Alors justement, cette année, il y a le groupe Syriza, qui est un parti politique qui est apparu en Grèce. Est-ce qu'ils ont une position là-dessus?
Alors Syriza, officiellement, est contre la sortie de l'euro. Mais toute la difficulté est de savoir s'ils sont élus, s'ils vont tenir leurs promesses. Puisqu'en gros, ils ont dit qu'ils étaient contre le mémorandum. S'ils refusent le mémorandum, la Banque Centrale Européenne va arrêter de financer les banques, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, Syriza, soit ils accepteront de sortir de l'euro, soit ils vont accepter de négocier le mémorandum. Mais il n'y a pas de marge. Le mémorandum, c'est la liste des réformes qui sont imposées. Hein. C'est ça le terme. À mon avis, le choix politique pour un gouvernement progressiste qui arriverait au pouvoir en Espagne, en Grèce ou ailleurs, c'est... assumer l'affrontement politique vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, vis-à-vis du FMI, vis-à-vis des pays du Nord, ça implique d'être prêt à assumer la sortie de l'euro. Ensuite, politiquement, c'est pas neutre de dire de pas défendre la sortie de l'euro, mais de défendre une autre intégration européenne et devant le fait que c'est pas possible assumer la sortie de l'euro. Mais ça veut dire qu'il y a quand même cette question qui est en arrière-plan.
Alors quand tu parles d'une autre intégration européenne, il y a d'autres solutions
Alors, il y a une solution néo-keynésienne qui est défendue par une partie de mes amis chez les atterrés et par beaucoup de gens qui aujourd'hui sont contre le traité. Ils disent, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est mutualiser les dettes, éventuellement annuler une partie de ces dettes et puis organiser un grand plan d'investissement européen qui permette donc de relancer l'activité. Il faut faire augmenter aussi les salaires en Allemagne. Plutôt que de baisser les salaires en Grèce, on fait augmenter les salaires en Allemagne, comme ça les différentiels de compétitivité se réduisent, etc. Donc là, il y a effectivement une série de mesures qui techniquement sont possibles et sont tout à fait sont mille fois préférables à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais le problème, il est politique. Alors, le problème, il est politique, c'est-à-dire quelle va être l'autorité politique au niveau européen qui va être légitime pour assumer des transferts financiers extrêmement importants d'un pays à un autre. Qui va avoir la légitimité pour faire ça, hein ? Et je pense qu'aujourd'hui, sur quoi on bute, c'est une forme d'autoritarisme européen qui interdit tout issue progressiste. Hein. Et les crises politiques qui sont devant nous, il y en a des très fortes, c'est quelque chose de certain, ces crises politiques se produiront d'abord au niveau national, et je pense qu'on aura une forme de dislocation partielle de l'Europe sur la base de conflits de classe qui se cristallisent au niveau national. Alors ça ne signifie pas des replis nationalistes, en tout cas pour la gauche radicale, je pense que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ça signifie que ces craquements, hein, selon des lignes nationales, s'ils se font sur des bases de classe, sur des bases progressistes, il faut qu'ils se fassent avec des propositions d'intégration alternative à l'Europe. On peut refaire une Europe, mais cette Europe ne se refera pas sur les bases de l'Union économique et monétaire.
Donc ça peut être sur quelle autre base ?
Alors, sur quelle autre base ? Ben, on peut retrouver les éléments que j'évoquais tout à l'heure, mais les éléments que j'évoquais tout à l'heure en termes de transferts financiers, d'investissements qui permettent de réduire les écarts de développement, de circulation des personnes, de construction des services publics européens, on peut avoir tous ces objectifs-là. Mais il faut qu'ils soient posés comme fondement à cette intégration. Alors que là, ce qui a été posé comme fondement, c'est 1. La concurrence, avec un grand espace concurrentiel, et 2, la construction d'une monnaie au service de la finance qui prétend à rivaliser le dollar. Je pense que sur cette base-là, on ne va pas réussir à faire quelque chose de bien.
Alors, il y a quelques années, il y a eu des grosses crises dont on a beaucoup entendu parler. Alors toi, peut-être en tant qu'économiste, tu vas pouvoir nous dire un peu s'ils sont arrivés à sortir de ces crises. En particulier, il y a l'Islande dont l'État est censé avoir fait faillite. Ils ont fait faillite ?
Oui, l'Islande, c'est un petit pays, donc ils ont pu effectivement renoncer à payer leurs dettes sans que ça produise trop de dislocations au niveau international. Mais ils l'ont fait de manière acharnée. Hein, c'est-à-dire qu'on leur a dit c'est pas possible, mais ils ont fait un référendum, ils ont dit non. Et puis au bout d'un moment, finalement, ils ont réussi à renégocier quelque chose qui a permis au pays donc de redémarrer. Un deuxième élément, c'est qu'ils ne sont pas dans la zone euro, donc ils ont dévalué. Et en dévaluant, ils ont pu donc reconstruire une économie basée sur autre chose que la finance.
Et cette stratégie, on ne paiera pas, ça serait possible en Europe ?
Ah, bien sûr. Je pense qu'un des éléments unifiants, au-delà du débat sur la sortie de l'euro, sur la dislocation, etc., quelque chose qui est commun à tous les peuples d'Europe aujourd'hui, c'est de refuser la finance, le pouvoir de la finance. Et le pouvoir de la finance, c'est ce chantage à la dette. Hein. C'est ce chantage à la dette. Et ça, c'est vraiment l'élément clé. Hein. Réformes structurelles et austérité sont permises par le mécanisme de chantage à la dette que permet le financement des États par les marchés financiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel il faut se battre de manière centrale. Hein. Refuser d'abord mettre en place un moratoire sur la dette, c'est-à-dire qu'on arrête de payer les dettes tout de suite, ce qui donnera un peu d'air aux pays les plus fragilisés. Et 2, faire un audit de cette dette pour voir laquelle on paye ou laquelle on ne paye pas. Hein. Puisqu'une partie des dettes peut représenter des dettes des retraites de salariés, donc il faut peut-être avoir des choses à aménager. Mais là, il faut que les gens qui détiennent des titres de la dette publique présentent cette dette, qu'on évalue et qu'on décide selon quels critères on acceptera la payer ou pas. Parce que, j'insiste peut-être sur cette idée, cette dette, elle est pour l'essentiel, aux deux tiers à peu près, le stock de cette dette pour les deux tiers est lié au choc de la crise financière de 2008.
C'est pour ça que le terme même de dette publique ou de dette souveraine est un peu trompeur, en fait.
Oui, c'est de la dette souveraine qui a été accumulée pour sauver la finance privée. C'est exactement ça.
Et alors, cette dette, là, tu proposes, j'imagine que tu n'es pas tout seul, de créer un audit sur cette dette. Mais une fois qu'on a créé cet audit, on choisit quoi ? On choisit de payer une partie et de refuser
L'audit, ce que ça permet déjà, c'est de savoir qui détient la dette. Puisqu'en fait, la dette, on ne sait pas vraiment à qui elle est. On sait éventuellement qui l'achète au moment de la vente, mais après, elle circule librement sur les marchés. Donc, qui détient sa dette, on ne sait pas vraiment. Si on fait un audit, ça signifie que les gens qui espèrent, pour pouvoir espérer être remboursés, il faut qu'ils viennent à un bureau et qu'ils disent « Ben voilà, moi j'ai ce titre qui vaut tant et j'aimerais être remboursé. »
Mais la dette, elle continue toujours à circuler, non ? Donc si on fait l'audit, on le fait, il faut
si on fait un moratoire sur le paiement, alors il y a plusieurs éléments, mais si on fait un moratoire sur le paiement, les titres, ils peuvent continuer à circuler, mais les gens, pour être remboursés, à un moment donné, ils vont devoir se présenter pour être inscrits. Donc il y a un peu cette idée que cette démarche-là permet d'avoir une idée de qui détient la dette. Donc ça, c'est l'idée du moratoire. Ensuite, il faut établir des critères, hein, un maximum de X milliers ou dizaines de milliers par individu, regarder le rôle des différentes institutions, réfléchir par exemple à la dette qui est détenue par les banques centrales des pays en développement. Bah, peut-être qu'il faut... Bon. Donc là, il y a une série de choses à décider politiquement. Mais pour prendre ces décisions politiques, il faut savoir qui détient la dette.
Et une fois qu'on sait qui détient la dette, est-ce qu'il y a d'autres politiques structurelles à mener ou est-ce qu'on laisse les choses se faire pour sortir de la crise ? Il y a une solution vaguement ? J'imagine qu'il y a plusieurs.
Non, mais alors là, il y a un débat qui est important. Et d'ailleurs, il y a un des éléments qui n'est pas assez discuté dans la règle d'or et dans les mesures d'austérité. C'est l'idée que la seule rationalité à ces décisions-là, c'est l'idée que l'Europe ne va plus pouvoir croître de manière importante. C'est le zéro croissance. Si vous voulez, il y a un lien un peu paradoxal entre le diagnostic des décroissants et les règles néolibérales sur l'austérité. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'endetter dès lors que c'est des investissements qui permettent d'avoir des retours futurs, c'est-à-dire de générer davantage de... C'est ça la bonne dette. C'est on investit aujourd'hui pour avoir davantage de revenus plus tard. Donc il faut de la croissance, créer de la croissance grâce à la dette. Si on ne croit pas à la croissance et à l'avenir de la croissance, on ne croit pas vraiment à la dette non plus. Donc moi je suis un peu entre les deux. À mon avis, on ne peut pas arrêter de croître maintenant, surtout parler de décroissance maintenant, dans un moment où l'ensemble des économies sont en train de se contracter et tout le monde en souffre violemment, ça ne fait absolument pas sens. À mon avis, il faut aujourd'hui investir massivement, donc faire de la croissance, mais pour sortir de la croissance. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser les économies sur une base qui leur permette de se reproduire et non pas de s'étendre. Et là, il y a toute une série d'investissements extrêmement importants à faire dans l'énergie, dans les transports, dans les services publics qui doivent vivre à permettre la reproduction et non pas l'extension en permanence. Donc voilà, s'il y avait un peu une philosophie pour les politiques économiques à mettre en place, à mon avis, ça serait celle-ci. Annuler la dette pour dégager des recettes pour pouvoir investir, non pas pour croître pour toujours, pour relancer la machine comme avant, mais pour sortir de la logique productiviste.
Il y a une chose dont on parle beaucoup en ce moment, que ce soit en France ou dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, c'est la réindustrialisation de nos chers pays. Tu crois que ça nous permettrait de sortir de la crise ou
Alors, pourquoi réindustrialiser ? Ça peut effectivement, sur le papier, permettre de relancer, sortir de la crise, relancer la croissance. Parce que l'industrie a cette magie par rapport aux services d'avoir régulièrement des gains de productivité. Si vous voulez, les services de coiffeur, en gros, il était aussi efficient il y a 500 ans qu'il l'est aujourd'hui. Donc, par contre, dans l'industrie, on a gagné en efficacité en investissant en capital, en inventant des procédés, etc. Donc l'industrie, c'est finalement le moteur d'une économie, ce qui lui permet de croître rapidement grâce à cette spécificité qui tient à la transformation de la matière. Donc réindustrialiser, développer la part de l'industrie, c'est potentiellement trouver de nouveaux gisements de productivité et donc permettre de relancer la machine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il est hyper industrialisé. Le monde, il est plein d'industries. Dans toutes les industries clés, l'automobile, le transport aérien, les semi-conducteurs, il y a des surcapacités de production. Donc en fait, ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est d'une certaine façon à la fin de l'industrialisation du monde. Et la fin de l'industrialisation du monde, c'est aussi la fin de la croissance.
Ouais, donc c'est une crise qui est multifactorielle et qui est sur plein de niveaux finalement. Ce n'est pas que la crise de la dette, c'est une crise sociétale.
En gros, on peut avoir, pour faire très simple, on a en gros quatre niveaux de crise. Hein. Un premier niveau le plus conjoncturel qui est celui de la dette lié à l'Europe. Un autre niveau qui est plus large qui est celui de la finance libéralisée. Un troisième niveau plus profond qui remonte à la fin de la période exceptionnelle de l'après-guerre, qui est celui de l'industrialisation du monde et de cette sursaturation des capacités industrielles. Et puis un dernier, en arrière-plan de tout ça, une crise écologique. À mon avis, on est dans un moment où on a l'imbrication de ces quatre niveaux de contradictions qui sont extrêmement vifs.
Alors là, tout à l'heure, tu nous l'as dit, il y a pas mal de gens qui sont dans la rue, que ce soit aujourd'hui d'ailleurs en Grèce, parce que c'est une grève générale. Il y avait le mois dernier au Portugal, où il y a 15 jours, je pense d'ailleurs.
Il y a 15 jours
au Portugal, hier en Espagne. Mais alors nous, d'un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter ou
Non, il y a une manif qui a lieu dimanche contre le TSCG. c'est le moment ou jamais de prendre appui sur cette initiative pour refuser d'une part la logique de l'austérité, mais d'autre part l'espèce de coup d'État, hein, le véritable coup d'État qui est en train d'être réalisé par la finance au niveau européen et qui vise à radicaliser l'agenda néolibéral. C'est ça le fond de l'affaire.
Bah alors en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense que tu pourras revenir parce que cette histoire de crise, c'est un peu notre feuilleton à nous qui est tout le temps régulier, perpétuel.
Oui, on peut faire le pari que dans un an, ça ne sera pas réglé.
Oui, je pense. Hein. Et d'ailleurs, tu étais venu il y a un an exactement, je crois que c'était le 28 septembre, dans ces studios-là. Donc si vous voulez réécouter le premier épisode de la crise... La crise pour les nuls par Cédric Durand. Vous pouvez aller sur notre petit site internet, donc www.loldf.org. Et puis je crois, comme tu fais partie des économistes atterrés, il y a peut-être des bouquins, des choses.
Oui, il y a un site atterré.org où il y a beaucoup d'infos, de textes et de petites vidéos. Et puis également la liste des bouquins qui ont été publiés par le collectif.
Ouais, d'ailleurs, vous avez sorti... un petit communiqué des économistes atterrés qui sont les économistes atterrés mettent en garde contre le pacte budgétaire européen. Si vous voulez en savoir plus, alors je ne sais pas si c'est toi qui y as participé, mais en tout cas, c'était...
On trouve ça sur le site.
Voilà, c'était fort, fort intéressant. Et ben, merci beaucoup et puis peut-être à la prochaine, à l'année prochaine.